J'avais d'abord, dans un premier temps, lorsque nous avions dîné ensemble au mois de mai, j'avais proposé une définition comme ça qui est venue, de ce que l'on peut appeler l'actualité, j'y reviendrai tout à l'heure, et j'avais proposé comme sujet l'actualité de la figure de Phèdre, la Phèdre de Racine. Et puis j'ai changé de sujet parce que je me dis, bon, je ne suis pas avec mon accord, bien entendu, parce que je me dis, je ne me reconnais pas le droit de parler en public d'une période pour laquelle il y a 1000 spécialistes infiniment plus compétents que moi à Bordeaux. Donc, Orphée m'est un petit peu familier, mais d'une manière extrêmement limitée, et tu trouveras, mon cher Jean-Louis, que c'est vraiment très très limité. On ne peut parler que du peu que l'on sait. Et donc, je voudrais d'abord rappeler un certain nombre de choses, certaines très connues, d'autres peut-être un tout petit peu moins, d'autres peut-être un petit peu surprenantes. Mais avant de parler de l'actualité d'Orphée, qu'est-ce que l'on peut mettre derrière cette figure? Donc, en introduction, nous pouvons dire que cette figure d'Orphée que je mets entre guillemets, parce qu'il s'agit d'une figure de représentation, ne pose pas moins de problèmes que la doctrine qui lui est attachée. Donc quand on parle d'orphisme, on met toujours des guillemets parce que c'est extrêmement flou. Orphée, comme Zoroastre, comme Krishna, voire Pythagore lui-même, pour rester dans notre sphère culturelle, appartient incontestablement au nombre de toutes ces grandes figures qui sont aux confins de la légende, de l'histoire et du mythe. Considérons rapidement la figure d'Orphée. La figure d'Orphée, premier aspect, d'abord la légende, parce que c'est ce qui est le plus connu. Il revenait au grand savant d'Oxford, Dodds, d'avoir exploré une piste de recherche très fructueuse en tentant des rapprochements entre la figure d'Orphée et la tradition dite chamanique. Cela, c'est dans cet ouvrage célèbre, n'est-ce pas, qu'il a écrit en anglais, qui a été traduit en français en 1965 et constamment réédité, particulièrement dans la collection Champflammarion. Récemment, l'ouvrage s'appelle, vous le savez, Les Grecs et l'Irrationnel. Les Grecs et l'Irrationnel, au chapitre 5, il développe longuement certains rapprochements. Sous le nom un peu général et vague, il faut en convenir, de chamanisme, en fait, on désigne un ensemble de pratiques religieuses relevant de dons supranaturels. Pour la période et le lieu qui nous intéressent, ces dons supranaturels se laissent assez facilement répertorier. Ce sont essentiellement le pouvoir de pratiquer l'excursion psychique, donc de sortir hors de son corps, naviguer à travers le temps, naviguer à travers l'espace. Il y a le pouvoir d'apaiser les vents. Il y a le pouvoir d'apaiser les bêtes sauvages. Il y a le pouvoir d'être vainqueur de la mort, soit par l'immortalité, soit aussi en ressuscitant soi-même ou ressuscitant les autres, soit enfin en descendant aux enfers pour y rechercher l'âme d'un être cher. Autre pouvoir également, le pouvoir d'être une incarnation du Dieu, le pouvoir enfin de rendre des oracles, même après la mort, par la survivance en une tête chantante. Vous aurez vite reconnu au passage quelques pouvoirs surnaturels ou supranaturels d'Orphée. Toujours entre guillemets, bien entendu. Mais n'oublions pas qu'il se trouve qu'à l'aube de la Grèce classique, la légende, nous sommes toujours dans la légende nous rapporte que d'autres hommes divins possédaient aussi un ou plusieurs de ces pouvoirs supranaturels que nous évoquions. Nous avons beaucoup de renseignements, particulièrement dans les livres 4 d'Hérodote. Bon, j'ai développé cela assez longuement dans des ouvrages antérieurs. Que pouvons-nous retenir du discours tenu sur ces hommes divins? Car enfin, c'est bien gentil de raconter que, par exemple, un certain Aristéas de Proconèse pouvait se promener à cheval, donc son âme sortait de son corps, il se promenait à cheval sur un bâton d'un endroit à l'autre, franchissant comme ça 300 kilomètres comme rien. Pour un autre, il est dit que il a vécu un certain temps en Sicile, et puis on l'a revu. On l'a revu 250 ans après dans un autre endroit. Bon, c'est bien joli, mais derrière une légende, derrière un mythe, je crois la question qu'il faut toujours se poser, qu'est-ce que l'on dit de soi? Et donc, que pouvons-nous retenir du discours tenu sur ces hommes divins? Je mets « hommes divins » entre guillemets, c'est la traduction du mot « theos aner » en grec, qui revient constamment. Essentiellement, me semble-t-il, la certitude que l'homme ne se réduit pas à ses limites visibles. Chacun de nous n'est pas qu'un certain nombre de décimètres cubes de carbone et d'ADN. Né-le à tel endroit, pour l'instant nous sommes tous vivants, donc le plus longtemps possible, mais disons pour d'autres qui nous ont précédés, décédez-le. Bon, donc l'homme ne se réduit pas à ses limites visibles. En fait, c'est cela qui est sous-jacent à tous ces discours. On raconte, on peut se promener d'un endroit à l'autre, à travers le temps, à travers l'espace. Cette certitude se traduit par l'affirmation conjointe de deux principes complémentaires. Le premier principe complémentaire, c'est que en l'homme, il y a un quelque chose d'indéfinissable, d'invisible, conçu en contrepoint du corps visible. Autrement dit, dans l'homme, il y a un non-corps visible. Ce non-corps visible, pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici, serait trop long. C'est ce que la postérité a appelé l'âme. Le corps, lui, il est espace, il est temps. L'âme, elle est ce par quoi des êtres privilégiés ou initiés remportent une double victoire éclatante. Victoire sur la clôture par l'espace, voilà ce que pourraient signifier au plus profond les récits de bilocation, d'excursion psychique, etc. Victoire sur la clôture par le temps. L'âme pourrait bien être ce par quoi la victoire sur la mort est possible. Voilà ce que pourraient signifier ces récits d'apparition après la mort, voire de réincarnation, même si le dogme religieux n'est encore en ce temps-là qu'à l'état d'ébauche. Deuxième principe, non seulement altérité de quelque chose qu'on appelle l'âme, mais autonomie. Autonomie totale de l'âme par rapport au corps. Leurs facultés respectives ne sont pas plus liées que ne le sont leurs destinées. Voilà donc ce que pourraient signifier les récits de révélation et ou de voyage de l'âme au pays de la connaissance, notamment par le moyen de la catabase ou descente dans un monde de révélation en dessous. Voilà quelques rappels très rapides sur la figure légendaire. Je passe maintenant à la figure mythique d'Orphée. Nous n'allons pas revenir sur les détails de ce mythe célèbre. Nous allons simplement le schématiser en suivant le récit d'Onomacrite. Onomacrite est un prophète, entre guillemets, si vous voulez, de la cour de Pisistrate. Les anciens lui ont attribué l'introduction du culte de Dionysos à Athènes, et il nous a résumé en quelques lignes ce qu'on appelle traditionnellement le mythe orphique. Ces quelques lignes elles-mêmes, nous les trouvons dans le livre 8 de ce guide bleu de l'Antiquité, et qui s'appelle « Le voyage de Pausanias ». Bon. Bref, le Le mythe est relativement complexe, je vous en donne l'abrégé, Deuxnomacrite, ça tient en quelques lignes. Le mythe est très connu, pardonnez-moi si je le rappelle pour quelques amis parmi nous. Au terme de la longue généalogie des dieux, Zeus a eu de Perséphone un fils, Dionysos, qu'ils ont prénommé Zagreus. Zagreus, comme ça se prononce, si vous voulez l'écrire, Z-A-G-R-E-U-S. Je vous permets d'épeler le nom parce qu'il est moins connu, bien entendu, que Dionysos. Dès lors, les titans, ennemis de Zeus, qui ressemblent beaucoup d'ailleurs aux Néphilim de la Genèse, les géants de la Genèse, les titans, ennemis de Zeus, poussés par Héra, s'approchèrent du jeune Zagreus. Masqués par des habits trompeurs, ils ont gagné la confiance de l'enfant en lui offrant, entre autres présents, un miroir. Pendant que le jeune dieu, bébé Zagreus, se contemple dans le miroir, il est brutalement agressé par les titans, auxquels il cherche à échapper par le biais d'une série de métamorphoses. Au moment où il prend la forme d'un taureau, il est vaincu par ses ennemis, qui le coupent en petits morceaux et qui vont le dévorer. Ça vous fait penser un petit peu à quelque chose d'Osiris aussi coupé en morceaux. Ainsi, les titans meurtriers du dieu, figure emblématique du mal, ont mis en pièces l'un. Par ce meurtre, le divin, un, s'est perdu dans le multiple. Mais dans un accès de vengeance, Zeus foudroie les titans qui avaient eu le front de dévorer les membres du jeune bébé. Seulement sur la terre, il n'y avait que les titans. Donc il n'y a plus de vie sur terre. Excusez-moi, là, je fais un peu de feuilleton. 3 secondes. Donc Zeus regrette un peu son geste, parce qu'il n'y a plus de vie. Et donc pris de remords, alors je reprends le récit maintenant. Il prend les cendres des titans et il va en fabriquer la race humaine. Point, c'est tout. Mais on a déjà toute l'histoire de la pensée occidentale. Pourquoi ? Parce que dans les cendres des titans, les titans qui sont des êtres méchants, matériels, dans les cendres des titans, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les morceaux du bébé divin qu'ils ont avalés. C'est-à-dire que la race humaine, qu'est-ce que c'est ? C'est une race mélangée d'une étincelle du divin, emprisonnée dans une enveloppe titanique. Et c'est le sens profond du fameux précepte « Connais-toi toi-même » que nous connaissons tous. Il faut peut-être rappeler qu'au départ, c'est Platon lui-même qui le dit, au départ, ce précepte est un précepte orphique. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais prendre simplement un de ces textes admirables, traduit par Jacques Lacarrière, dans son ouvrage merveilleux qui s'appelle, comme vous savez, Orphée, hymne, discours sacré. C'est en bilingue, je veux dire, heureusement qu'il y a la traduction, parce que je crois qu'il faut être très très bon helléniste comme Jacques Lacarrière pour comprendre les textes orphiques anciens. Et là voici l'un des textes les plus célèbres, vous avez dû voir cette traduction déjà se promener un petit peu partout. C'est une tablette d'or sur laquelle les textes ont été gravés en grec. Nous sommes au 4e, 3e siècle avant notre ère. Pitélia, c'est une ville d'Italie méridionale. Alors voici le texte, traduit merveilleusement par Jacques Lacarrière. C'est un texte composé un petit peu comme les livres des morts, vous savez, les livres des morts égyptiens, où on donne des conseils aux défunts. Et là, voilà le conseil que donne la tradition orphique, entre guillemets, à l'âme du défunt. À l'entrée de la demeure des morts, tu trouveras sur la gauche une source. Près d'elle se dresse un blanc cyprès. Cette source ne t'en approche pas. Tu en verras une autre sortant du lac de mémoire, eau fraîche qui jaillit. Des gardiens la protègent. Dis-leur, la formule admirable, dis-leur, je suis fille de la terre et du ciel étoilé. De lui je viens, sachez-le bien, la soif me consume et je meurs. Donnez-moi vite l'eau fraîche qui jaillit du lac de mémoire. Et ils te permettront de boire à la source divine, et désormais héros, sans fin, tu régneras. Fin de citation. C'est la tablette d'or de Bételia. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire « connais-toi toi-même » ? Ça veut dire « apprends à savoir que tu es une double nature. Apprends à savoir que tu es fille de la terre et du ciel étoilé. » C'est-à-dire, je vous le dis tout de suite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déchirer entre les limites de l'infini, pardon, entre les limites du fini et le désir de l'infini. Ainsi donc, les filles de la terre, la limitation du fini et du ciel étoilé et du désir de l'infini. Donc, il me semble possible de dire, donc je crois, que la dynamique de ce mythe s'oriente en direction de trois axes. Le premier axe, je donne tout de suite, je précise, hein. Il me semble que, donc je n'affirme pas cela, c'est une hypothèse d'interprétation. Trois axes. Le premier axe, je l'intitulerai « Le corps comme chiffre du malheur d'exister ». Le corps comme chiffre du malheur d'exister. Dire que l'homme est un composé, enfermant en lui une parcelle de Zagreus, c'est bien une manière symbolique d'exprimer que l'homme est un être de désir, mieux, de nostalgie. L'histoire du désir se confond avec l'histoire de la quête de la patrie perdue. Pour tout homme, à la différence des initiés de la légende dont je parlais tout à l'heure, vous voyez, celui-là qui se promène sur, qui franchit des espaces sur un manche à balai. Non, il n'y a pas de. C'est pour tout homme, quel que soit son rang social, sa race, son sexe. Le corps est ressenti comme une prison, comme une geôle, comme une garderie, voire comme un tombeau. Vous avez reconnu immédiatement, Phédon 62b, Cratyle 400, le fragment 795-221 d'Orphée repris par Phédon. Je vais dire par là que toutes ces images que vous connaissez par cœur chez Platon, Platon dit très bien qu'il les a empruntées au mystère orphique. Donc le corps est le chiffre du malheur d'exister. Le corps est une prison, une geôle. Je ne vous donne pas le terme grec, vous prenez, ce serait de lacustrerie, mais certains parmi vous les entendent très bien. Une prison, une geôle, une garderie, un tombeau. Ces images célèbres résonnent comme des harmoniques d'un son fondamental. Le corps est donc perçu comme le chiffre du malheur d'exister, gardant une je ne sais quelle trace de la souillure, contractée par le fait même d'être. Le deuxième axe, c'est ce que j'appellerais le tragique de la réitération. Je parlais du malheur d'exister tout à l'heure. C'est bien de cela qu'il est ici, car s'il suffisait de quitter cette dépouille du corps pour accéder à un bonheur sans fin, l'épreuve constituée par l'existence terrestre pourrait paraître insupportable. Mais, dans cette tradition orphique, tous les êtres, ou presque, sont condamnés à des ensomatoses, à des chutes dans le corps réitérées. Donc, il ne suffit pas que l'âme sorte de son corps. Elle est condamnée à retomber dans un autre corps. On retombe là, le tragique de la réitération. Le troisième axe, c'est ce que j'appellerais l'instance des arrière-mondes. C'est le troisième mythe corollaire sur lequel nous n'allons pas nous appesantir aujourd'hui, mais avec sa représentation très codifiée d'une topographie de l'au-delà. Si l'âme échappe à la mort, elle échappe aussi au fait de naître. Donc, avant la naissance, elle est forcément quelque part. Après la mort, elle sera aussi quelque part. Donc, on va inventer un lieu où on imaginera exactement le contrepoint de ce qui se passe dans cette vie ici-bas. C'est-à-dire que enfin les bons seront récompensés, ce qui n'est pas toujours le cas ici-bas, et les méchants seront punis, ce qui n'est pas toujours le cas ici-bas. Et donc on va imaginer des arrière-mondes. Voilà donc, dans ce mythe, dans le mythe orphique, j'ai vu la première chose, c'est-à-dire... J'ai rappelé rapidement ce mythe orphique, et j'arrive à la troisième étape, je suis toujours dans Orphée, après la légende et le mythe, j'arrive à la rationalisation. La rationalisation, tout mythos est appelé à se conceptualiser en logos, et j'allais dire inversement ce qui choquait énormément il y a 20 ou 30 ans, et qui choque peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui, c'est-à-dire que derrière toute pensée rationnelle, il y a un mythe sous-jacent. À la lueur de ce mythos, de ce tout petit récit du petit dieu Zagreus dévoré par les titans, à la lueur de ce mythos, tout un pan de l'histoire ultérieure de la pensée semble bien pouvoir mieux s'éclairer. Si la philosophie nous apparaît comme une rationalisation conceptuelle d'un mythe initial. Selon la belle formule de Kant, dans la critique du jugement, reprise et développée par Ricoeur, le symbole donne à penser. Inversement, la théologie et l'éthique orphique ne seront complètement explicitées qu'à travers l'élaboration philosophique qui a suivi et que nous devons tout particulièrement, bien sûr, à Platon et qui se prolongera chez ses successeurs. Il fut un temps, j'espère que ça n'existe plus, quoique j'ai quelques doutes, où on a pensé que Platon avait inventé un système philosophique. Et on a négligé ces innombrables fois où Platon dit, fait dire à Socrate, comme dit un certain discours, comme disent les anciens, comme disent un discours d'autrefois, comme disent les mystères, Palaios Logos. Il y a un antique discours qui dit que, ne cherchez pas ces discours orphiques. Et donc, pour présenter cette rationalisation que vous connaissez tous, je vais simplement la rattacher au mythe orphique. Cette rationalisation, je vais rappeler simplement de manière très très rapide ce que j'aime bien appeler les homologies platoniciennes. Autrement dit, nous avons deux ordres. Deux ordres symboliques. Je voulais faire tirer des papiers, mais ce n'était pas utile, donc je vais faire simplement deux gestes. Donc, il y a, si vous voulez, il y a, sur le plan du symbole, il y a le ciel et la terre. Sur le plan du mythos, il y a le dionysiaque, c'est-à-dire le divin, et puis en bas, le titanique, ce qui est mauvais. Si je passe à la rationalisation, et c'est-à-dire à la philosophie, si je passe du mythe à la philosophie, Sur le plan de l'anthropologie, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir en haut l'âme, et en bas, le corps, prison, entrave, tombeau. Si je place au plan de la métaphysique, je vais avoir en haut l'esprit, l'un, l'être, les nombres nombrants, et en bas, la matière, le multiple, le devenir, la temporalité, le multiple, oui, le devenir, le temps, les nombres nombrés. Si je passe à la théorie de la connaissance, l'épistémologie, en haut, je vais avoir l'intelligible et le monde des idées que tout le monde connaît, l'allégorie de la caverne, il ne l'a pas inventé. Ce n'est qu'une rationalisation a posteriori du système de la connaissance dérivé du mythe initial. Donc, qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a l'intelligible, l'idée, la science, l'essence. Qu'est-ce qu'il y a en bas? L'image, l'opinion. Si je passe au plan de l'éthique, au plan de la morale, qu'est-ce qu'il y a en haut? L'ascèse purificatrice. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Les passions. Quel est donc l'idéal? Tout à l'heure, vous aviez cette formule admirable. Je suis la fille de la terre et du ciel étoilé. Sache que tu es la fille de la terre et du ciel étoilé. C'est très général. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est très simple. C'est Platon qui va nous l'expliquer. Il faut monter de tout ce qu'il y a en bas, petit à petit, jusqu'à ce qu'il y a en haut. Il faut libérer l'âme des passions. Il faut faire sortir l'âme du corps prison, ça c'est le Phédon. Il faut monter du sensible à l'intelligible, ça c'est Platon République 6, hein, c'est la fin du livre 6 de la République, qui est tellement incompréhensible pour les disciples de Socrate, que Socrate finit par leur dire, puisque vous êtes bêtes et que vous comprenez rien, je vais vous raconter une histoire, et donc il raconte la fameuse allégorie de la caverne au livre 7. Mais le texte central, vous le savez, ce n'est pas l'allégorie de la caverne, c'est ce qui précède. C'est peut-être particulièrement peu clair. Sur le plan de la morale, sur le plan de l'éthique, quel est le texte central? C'est le texte du banquet. Le fameux discours du banquet sur l'amour, qui est une sorte d'opérateur éthique, comme disait Claude Calam, ou que j'appellerais moi personnellement un élan désidérant de contemplation. Qu'est-ce que l'amour? C'est un élan désidérant de contemplation qui nous fait partir de choses sensibles, belles, mais qui vont nous faire arriver jusqu'à ce sentiment du beau océanique. Autrement dit, je ne sais pas si j'ai été très clair, nous avons exactement deux domaines, un en haut, un en bas, qui se déclinent sur le plan symbolique, sur le plan mythique, sur le plan de la rationalité elle-même se décomposant en anthropologie, métaphysique, épistémologie, éthique. La démarche, c'est une démarche ascensionnelle. Il faut monter pour s'échapper. Ce que, en termes cuistes, on appelle l'anagogie. Voilà donc un ensemble extraordinairement structuré autour de deux thèmes. Je vais passer très vite. Autour de deux thèmes très connus, là encore. Le premier très connu, c'est le thème de l'immortalité de l'âme. Le thème de l'immortalité de l'âme, donc, largement développé par Platon, comme vous savez. Alors, ce développement conceptuel du mythe est trop célèbre et en même temps trop évident pour qu'il soit utile d'y insister. Mais sans doute perçoit-on encore mieux maintenant le lien aussi étroit qu'impérieux qui unit ici mythe et pensée. Préexistence et survie de l'âme vont devenir ainsi objet d'affirmation et de démonstration philosophique, particulièrement dans le Phédon, qui dès lors apparaissent plus, pardonnez-moi, je vais employer un barbarisme, ces démonstrations apparaissent plus comme des monstrations que comme des preuves. Parce qu'une fois qu'on a lu les preuves de l'immortalité de l'âme chez Platon, ça ne convainc personne. Vous savez sans doute que Lucrèce a écrit le livre 3 de son chant sur la nature pour démolir les 17 preuves de Platon. On n'y croit pas plus davantage. Pourquoi ? Parce que le problème est de savoir qu'est-ce que tu dis, toi, quand tu parles de l'âme ? Quand tu dis « je crois que l'âme est immortelle », l'autre dit « non, c'est pas vrai, l'âme n'est pas immortelle ». Mais qu'est-ce que tu dis de toi quand tu parles de l'âme ? C'est peut-être par là qu'il y a une actualité, j'y reviendrai. Le deuxième axe après l'immortalité de l'âme, c'est bien entendu, ça va de soi, mais il faut le dire encore, la dépréciation de l'ordre inférieur. Le temps, c'est moins bien que l'éternité. Le devenir, c'est moins bien que l'être. Et tout ce que j'ai mis dans la colonne, dans la série du bas, c'est moins bien que la série du haut. Ce ne sont pas deux séries équivalentes. Il n'est sans doute pas utile d'y insister, sauf à rappeler brièvement que dans son développement tardif, chez un Plotin, par exemple, alors Plotin, nous sommes au milieu du IIIe siècle de notre ère. Cette dichotomie entre le haut et le bas va servir à voir dans le corps matière le siège du mal. Plotin a écrit un traité, 1-8, d'où viennent les mots ? Les mots viennent de la matière. Platon n'avait jamais dit ça. Donc sa dépréciation ne fera que s'accentuer au fur et à mesure qu'on va descendre dans le temps. Faut-il rappeler la constellation symbolique qui va s'y trouver associée, tout particulièrement celle de la souillure, celle de la souillure induisant les engrammes de la peur et de la culpabilité. Tout cela pourrait nous sembler lointain. Y aurait-il donc une actualité d'Orphée ? Actualité d'Orphée, point d'interrogation. C'est un mot très flou, et donc je dis toujours, quand on emploie des mots flous, il faut donner une définition et s'y tenir, même si la définition est contestable, mais au moins il faut savoir de quoi l'on parle. Je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Marie, quand tu as dit « il faudrait parler de l'actualité ». Donc j'ai tourné dans ma tête et j'étais sorti un truc. J'ai essayé de me ressouvenir et de vous... J'avoue que finalement, j'y reste. Donc je propose, comme définition, qu'est-ce que je mets moi ? Pas forcément vous, donc ça n'a aucune valeur en soi. Je dis simplement, je définis ce dont je vais parler. Je définis l'actualité comme le caractère propre d'un ensemble de résurgences et ou de rémanence d'invariants filtrés au prisme de l'aujourd'hui, de l'éphémère. Vous voulez que je redise ? C'est le caractère... Comment j'en ai ? C'est ce que j'ai dit au repas, mais tu sais, ça m'est sorti comme ça, finalement j'y suis resté. Donc il dit, c'est le caractère propre d'un ensemble des résurgences et ou rémanences d'invariants filtrés au prisme de l'aujourd'hui, de l'éphémère. Donc, partant de là, je vais donner deux précisions à titre d'excuse. D'une part, à ne se référer qu'à l'éphémère, c'est-à-dire moi, je risque de ne dire que des choses que demain invalidera. D'autre part, l'aujourd'hui de l'éphémère peut revêtir des apparences différentes pour chacun d'entre nous. Et donc, à chacun d'entre nous, donc, à la lumière du bref exposé précédent, d'y trouver sa propre vision de son actualité. Pour ma part, je ne saurais donc présenter que mon point de vue, qui est forcément très restreint. Donc, c'est une excuse. Donc, puisque j'ai parlé d'abord de la légende, puis du mythe, ben je vais suivre le même plan. Il y a des... Derrière cette figure d'Orphée, il me semble qu'il y a des légendes actuelles. La première légende, la plus connue, c'est Orphée et Eurydice. J'appelle légende et pas mythe, parce que pour moi, un mythe, c'est un récit fondateur à triple fonction, c'est un récit fondateur à triple fonction étiologique, exemplaire, heuristique. Là, c'est une légende qui est rattaché, vous savez, à ses pouvoirs supranaturels, on peut apaiser les bêtes sauvages, on peut descendre aux enfers, etc. Alors commençons par cet épisode, donc c'est le plus célèbre, à défaut d'être le plus important. Pourquoi cet épisode a-t-il inspiré tant de poètes, musiciens, peintres et sculpteurs? Moi, je vois trois choses, mais c'est limité ce que j'ai dit, hein, donc il y a beaucoup d'autres choses que je ne vois pas. Sans doute d'abord, parce qu'il met en valeur l'ambivalence de la passion amoureuse. Virgile l'a admirablement mise en valeur à la fin de son poème des Géorgiques. Vous vous rappelez, on voit Orphée descendre aux enfers. Il a vaincu plein d'obstacles. On ne descend pas aux enfers vivant, non ? Or, lui, il descend vivant. Donc, il a... comme les chamans, entre guillemets. Bon. Donc, il a vaincu plein d'obstacles. Il a pénétré vivant dans l'enceinte interdite des enfers. Il a obtenu des maîtres des lieux de ramener sa chère Eurydice aux brises, jusqu'aux brises d'en haut, superas ad auras. Et voilà qu'une subite folie, dementia, saisit. Mais que j'ai oublié de vous donner les mots latins. Lorsque une subite folie, dementia, saisit incautum amantem. Alors, incautum, ça veut dire, c'est un adjectif, ça veut dire imprudent. Amantem, c'est un participe qui peut être un adjectif, ça veut dire aimant. Là, comme il y a deux adjectifs, il y a forcément l'un des deux qui sert de nom, qui est substantivé. Et donc, on peut traduire « une folie a saisi l'amoureux imprudent ». Je vous demande pardon, je trouve ça idiot. Donc, c'est une platitude inconcevable chez Virgile. Donc, j'ai interverti. J'ai fait de... C'est pas amantem qui est substantif, c'est incautum. Ça donne donc une folie saisie l'imprudent, tant il l'aimait. C'est autre chose quand même. Ce qui conforte ma traduction. Tu me diras si je fais un contre-sens. On a le grand latiniste, pas moi. Et donc, qu'est-ce qui... Moi, j'ai toujours cherché à traduire comme ça, même l'époque où j'enseignais au lycée. Mais qu'est-ce qui me conforte dans cette traduction? C'est le début de ce texte admirable que j'ai envie d'appeler comme... À la suite des grands madrigaux de Monteverdi, j'appelle ça le lamento d'Eurydice. Et là, cette grande phrase, alors je vous dis, quis et me miseram. Et donc, qu'est-ce ce qui, pour notre malheur, à moi et à toi, Orphée, qu'est-ce qui nous a perdus? Qu'est-ce donc ce délire fou qui nous a perdus. Et donc il y a, on sait le sens du mot furor dans la poésie latine. C'est un état de délire amoureux ou guerrier qui empêche de raison garder. Et nous sommes ici au cœur même du drame d'Orphée et ce que je perçois comme une actualité. Pourquoi l'amour nous fait-il causer un mal que l'on ne veut pas à l'être que l'on chérit le plus? C'est quand même très actuel. Qu'est-ce qui fait qu'on fait du mal qu'on ne veut pas à l'être qu'on chérit le plus? Plus généralement, pourquoi nous arrive-t-il de faire le mal que nous ne voulons pas et non pas le bien que nous voulons? Nous touchons là exactement comme dans le cas d'Héraclès, je me rappelle c'était la première conférence que j'avais faite à cet invité du mercredi. Nous touchons là au mystère de la faillibilité humaine, s'il y a une chose bien actuelle, c'est cela. Nous sommes dans un invariant, mais qui ressurgit à travers les situations particulières, même à travers l'éphémère de l'existence. La deuxième chose, pourquoi a eu tant de succès? Sans doute aussi parce qu'il donne, cette légende, parce qu'elle donne une valeur mystique à l'incantation lyrique comme expression d'un antidestin. Pour finir, vous savez bien, le long des rives et de l'Èbre, la tête chantante d'Orphée lancera cet appel angoissé. Après avoir perdu Eurydice une deuxième fois, il va errer sur les bords du Strymon ou de l'Èbre, selon les gens. Et donc il va chanter, les bacchantes furieuses vont s'emparer de lui, le couper en morceaux, puis sa tête va rouler. Va rouler dans le fleuve. Alors, le fleuve suivant, c'est la Maritsa ou c'est le Dniestr. Donc, de toute manière, la tête tombe dans la mer Noire. Donc, la tête chantante d'Orphée lancera cet appel angoissé. Eurydice, Eurydice. Et les rives du fleuve répercuteront à jamais l'écho Eurydice, Eurydice. C'est-à-dire que celui qui chante, comme celui qu'elle appelle, ne mourront jamais. Et c'est peut-être cela qui a fasciné un petit peu les poètes. L'incantation lyrique a une valeur mystique. Pardonnez-moi, je vais parler de quelque chose que je connais peu, mais qui nous touche de près ici dans cette université, c'est qu'un certain Victor Ségalène a été fasciné par la, qui était lui-même fasciné par la musique, a proposé un livret d'opéra à Debussy en 1921 intitulé Orphée. Rappelons également qu'Apollinaire a contribué, semble-t-il, au lancement d'une école qui a voulu associer musique et peinture. Cette école qui va s'appeler l'Orphisme, où Apollinaire va ranger lui-même un certain Picasso. Troisième raison d'actualité, sans doute enfin parce que cette légende établit une corrélation non moins mystique entre l'infini et l'amour. L'infini et l'amour. Selon une légende, en effet, développée en partie par Ovide et Métamorphose, la tête d'Orphée, découpée, qui continue à chanter Eurydice, Eurydice, la tête d'Orphée, après une longue errance à travers les flots marins, vous voyez, elle traverse la mer Noire, franchit les détroits du Bosphore, la mer de Marmara, franchit les Dardanelles, se retrouve en mer Égée. Vous savez où elle aboutit, la tête? Elle aboutit au rivage de Lesbos, Lesbos, la patrie de la première grande poétesse de l'amour, Sappho. Que dire maintenant ? Après Orphée et Eurydice, je suis toujours dans les légendes. Que dire maintenant de la relation entre Orphée et tous ces hommes divins qui sont à cheval sur le... Je prends toujours le même exemple parce que c'est plus facile, il y a quatre exemples. Hein. Non mais alors, ben, celui-là qui est à cheval sur un balai qui se promène à droite à gauche. Alors donc, cette quête de repère dans un hors-espace, hors-temps, chez nos hommes divins, Théos, Aner, pourrait paraître tout à fait hors de saison. Donc, pour une grande partie de notre monde actuel qui se voudrait rationnel, voire positiviste. En quoi est-ce actuel, cette histoire de ce bonhomme qui se promène sur un balai pour franchir l'espace et les temps? Ben, détrompons-nous, c'est extrêmement actuel. Parce qu'au temps très ancien de la Mésopotamie sumérienne, est-ce que nous ne l'avions pas trouvé déjà chez un certain Gilgamesh? La quête de la gloire, comme une métamorphose au sens jungien, comme une métamorphose de l'angoisse de la mort et du désir de transgression des limites imposées par l'espace-temps. Est-ce que vous voyez une grande différence entre la légende qui raconte qu'on se promène à cheval sur un balai pour aller d'un endroit à l'autre, pour vaincre la mort, pour vaincre l'espace, pour vaincre le temps, et puis le désir de la gloire. Le désir de la gloire qui est une manière d'inscrire son nom par-delà les limites de son corps dans l'espace et dans le temps. C'est la même chose. Je vais citer simplement quelques versets des tablettes, de la deuxième tablette de la version de Ninive de Gilgamesh. Gilgamesh s'adresse à son double, Enkidu. Il dit, Enkidu, mon ami, tout ce que font les hommes, ce n'est que vent et que fumée. Alors, tentons la gloire. Un peu plus loin. Je veux crier au monde le renom de ma gloire et que nos descendants reçoivent la mémoire de notre gloire. Est-ce qu'il y a une grosse différence, je répète, entre cette histoire d'Aristéas qui se promène à cheval sur un balai pour franchir le temps et l'espace, vaincre la limitation de son corps et de sa temporalité, d'une part, et d'autre part, la quête de la gloire, d'inscrire son nom par-delà les limites de son corps et de son temps. Défi donc de la gloire, qui, refusant violemment la condition mortelle de l'humanité, veut inscrire son nom dans la linéarité d'un temps sans fin. Ça, c'est Gilgamesh, ça peut paraître loin, et en même temps, je vous ai dit, c'est bon. Plus proche de la tradition orphique, pythagoricienne, et donc de notre culture, vous connaissez sans doute ce très beau traité de Cicéron, le Pro Archia, pour la défense du point grec Archias. Cicéron n'hésite pas à proposer la quête de la gloire comme un moyen privilégié, peut-être un ersatz, pour accéder à l'immortalité, en continuant de vivre dans la mémoire de la postérité. Or, n'est-ce pas là, pour reprendre ma définition d'actualité, n'est-ce pas là un de ces invariants dont on voit aisément des résurgences, chacune marquée du sceau de son époque? Légende actuelle, mais aussi un mythe actuel, c'est par là que je terminerai. Ce sera rapide. La première chose, c'est d'abord Orphée, comme émergence de la polarité. Je préfère employer le mot polarité que le mot dualisme. Je l'expliquerai rapidement. Alors, faut-il insister sur la prégnance de l'anthropologie platonicienne dans l'histoire de notre culture ? Des écrits du maître à la naissance de la théologie chrétienne, en passant, ne l'oublions pas, par la traduction grecque des écritures juives, où l'idée d'être vivant en hébreu va être traduite en grec par psyché, c'est-à-dire l'âme. C'est-à-dire qu'en traduisant tel ou tel verset de Genèse 1, 27 ou Genèse 2, 3, on va faire basculer complètement la théologie hébraïque primitive vers cette tradition orphique et pythagoricienne de l'âme. Bon. Comment oublier donc, à travers toutes ces étapes, le moyen platoniste, la traduction des écritures juives, le judaïsme alexandrin d'un Philon d'Alexandrie, maître à penser de la plupart des pères grecs et latins qui ont contribué à façonner la naissance de la théologie chrétienne. Par-delà tout cela, comment oublier que c'est bien à Orphée, entre guillemets, que l'antique tradition a fait remonter la notion d'âme que tant de nos contemporains utilisent aujourd'hui en oubliant sans doute son origine. D'autre part, cette opposition orphique, toujours entre guillemets, entre âme et corps, est-ce qu'elle n'aurait pas quelque chose à voir avec cet autre binôme, esprit-matière ? Ce binôme n'est-il pas contesté par nombre de nos contemporains scientifiques ? Bien entendu, se pose ici une question quasi insoluble, celui de la corrélation entre langue et culture. Nous avons dans la sphère culturelle dite indo-européenne deux catégories, matière et esprit, corps et âme. Donc, il y a interaction forcément entre les structures linguistiques, les structures lexicologiques et le mythe lui-même. Deuxième forme d'actualité possible, après Orphée ou l'émergence de la polarité, Orphée ou les métamorphoses du désir. Plus profondément, parlant du désir, j'aimerais, mais c'est tout à fait personnel, en évoquer le sens étymologique qui, me semble-t-il, n'a pas été tellement mis en valeur. Donc j'ai proposé il y a très longtemps une étymologie qui me paraît pas fausse, d'ailleurs. Nous connaissons tous le verbe en français « considérer ». Vous connaissez bien cette grande phrase des sermons de Bossuet. « Considérez, messieurs, c'est puissant. » Alors « considérare » en latin, ça veut dire « regarder les astres, si douce, un monde sidéral hein. ». Donc, considérare, regardez. Ça, tout le monde le sait, c'est classique. Bon. Desiderare, personne ne l'a dit. Or, des, c'est l'idée de manque. Alors, vous savez comment moi je définis desiderium, ou des, ce qui a donné le français désir. Desiderium, c'est le désir, c'est le fait d'avoir perdu la polaire. La polaire, c'est ce qui vous permet d'avoir les axes cardinaux et donc d'orienter votre vie. Et donc je suis fille de la du ciel étoilé. Je cherche ma polaire. Et à ce titre donc, ce concept d'âme ne nous livrerait-il pas une parole sur l'appel de l'infini? Orphée ne serait-il pas comme la figure emblématique du désir d'infini, comme référent ultime du fini? Infini, ça peut être aussi quelque chose de proche de l'indéfini. L'infini, c'est sans limite, mais en même temps, ça peut être un petit peu déroutant. Où va-t-on aller dans l'infini ? Où est la frontière entre l'infini et l'indéfini? Par conséquent, une des formes d'actualité, je pense, extrêmement brûlante de ce mythe, c'est que, au cœur de tout être, il y a quelque chose qui a rapport avec le désir. Alors ce désir d'infini peut déboucher sur deux attitudes opposées. On peut rechercher l'infini en dévalorisant le fini, en cherchant à échapper hors de ce monde. C'est généralement ce qui est retenu. Et peut-être autre chose. C'est de chercher l'infini en valorisant le fini comme image, peut-être même comme icône de l'infini. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc c'est pour ça que je parle plutôt de polarité, comme une tension, le désir comme une tension, la quête d'une polaire. En contrepoint, comment ne pas reconnaître que vouloir ramener l'exercice du désir aux limites de notre espace-temps, plus particulièrement à celui d'un moi individualisé, porte aussi les traits de cette grande figure d'Orphée. Je répète, enfin, je ne sais pas si j'étais clair. Je suis en train de dire qu'il y a l'aspect inverse de ce que je viens de dire. Donc, comment ne pas reconnaître que vouloir ramener l'exercice du désir aux limites de notre espace-temps, autrement dit, si vous voulez, de combattre en disant le désir d'infini, ça rime à rien, pour dire les choses familièrement. Donc, comment ne pas reconnaître que c'est une manière de se situer dans cette grande figure mythique d'Orphée, la combattre violemment, par exemple au nom du principe d'hédonisme. C'est bien lui reconnaître une existence rémanente et actuelle, fût-elle chargée de menaces. Si on combat violemment quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui présente une forme d'actualité menaçante. Donc dans un cas comme dans l'autre, nous voyons cette forme d'actualité. Il y a toujours dans les métamorphoses du désir, donc première métamorphose, désir d'infini, en dévalorisant, ou peut-être en valorisant le fini, parce que le fini peut être aussi icône de l'infini. Deuxième forme, deuxième métamorphose, le désir d'infini, c'est mauvais, le désir doit porter sur ce monde d'ici-bas. Troisième forme, n'oublions pas que là nous sommes en pleine actualité, que certains courants de spiritualité actuellement prisé dans notre civilisation, je pense en particulier à l'influence du bouddhisme tibétain sur notre civilisation. Donc, nous ne saurions oublier que certains courants de spiritualité actuellement prisés dans notre civilisation tendent à annihiler précisément le désir comme source ultime d'illusion. Maya, l'illusion. C'est une forme de désir de non-désir, si vous voulez. Mais réagir contre un idéal, c'est encore bien lui reconnaître une certaine actualité. Tout cela est extrêmement partiel et tout à fait limité. Donc je vais conclure sans conclure, parce qu'il faut quand même terminer, mais ce n'est pas une conclusion. Mais c'est quelques remarques. Faut-il le rappeler, donc une valeur très très personnelle et donc forcément une portée très limitée. Peut-être, sans doute même, ces propos n'ont-ils même pas de sens pour certains de nos contemporains, formatés sur l'instant de l'éphémère ou nourris qu'ils sont à un non-savoir. Libre en tout cas, à tout un chacun, soit de rejeter cette tradition, encore faut-il bien la connaître pour mieux situer son rejet, soit d'y trouver un écho à son propre désir, dans une fraternité de l'imaginaire. Je vous remercie.